12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux expositions qui font la part belle à deux photographes et à leurs portraits. L'un vient de la mode et le revendique, c'est Paolo Roversi auquel est consacrée la première grande rétrospective à Paris au musée Galliera. Le second, lui, ne se revendique même pas photographe mais artiste usant, c'est vrai, d'un appareil photo. C'est Andrés Serrano avec ses portraits de l'Amérique au musée Mayol.
Bonjour Sally Bonne.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'université Picardie. Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition, pour débattre face à vous ce midi. Yasmine Youssi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef culture à Télérama. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les Midis de Culture.
Et on commence avec l'exposition Paolo Roversi jusqu'au 14 juillet au Palais Galliera, au musée de la mode de la ville de Paris.
Ben moi, personnellement, j'ai jamais choisi, je suis photographe de mode un peu par hasard, mais je pense pas que quand on est photographe de mode, on est que photographe de mode. Je pense qu'on est photographe, et tout court, on l'est pas aussi, tout court.
Par hasard, c'est important de le souligner, le photographe italien Paolo Roversi, installé en France depuis les années 70, ne cesse de le convoquer, ce hasard, dans son parcours, mais surtout dans sa méthode. Les accidents des développements, le flou des poses longues, l'aléatoire du Polaroid sont la matrice de son style, avec pourtant une constante, cette quête incessante de la lumière. Les rayons du soleil, l'éclairage à la lampe torche, travaillés pour révéler ses portraits. Car c'est avant tout des mannequins, il reste bien photographe de mode, que Paolo Roversi capture, dépassant la jolie pose pour saisir chez elle quelque chose de plus. Mais alors quoi? Pour cette première rétrospective, le Palais Galliera ne mise pas sur un parcours chronologique, mais sur les expérimentations de Roversi. Qu'en avez-vous pensé, Sally Bonne?
Ah, j'étais très touchée par cette exposition qui est assez étonnante parce qu'on s'attend a priori à voir justement des images de mode, c'est-à-dire des beaux corps, des beaux vêtements, de la belle photographie, de papier glacé. Et en fait, on découvre une œuvre qui est intense, riche d'expérimentation technique, de travail, vous l'avez dit Géraldine, de travail sur la lumière, un travail aussi très particulier de captation du temps sur des modèles dont il s'agit pas tant de voir la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté d'ailleurs? On pourra peut-être en parler.
On va y revenir parce que lui parle du mystère de la beauté tout le temps.
Hein. Mais de saisir plutôt la capacité à dire l'instant dans un espace intime qui est celui de la photographie. Et ce que son œuvre montre et propose, c'est aussi, c'est vraiment, il le dit dans l'extrait qui a été passé, hein, il fait vraiment de la photographie au sens où il va écrire avec la lumière, dessiner avec la lumière. Et c'est ce qui est manifeste dans cette exposition qu'on voit dès l'entrée. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas tant des vêtements qui parfois disparaissent au profit de jeux d'ombre et de lumière, notamment d'ombres colorées, de contours qui sont en fait dessinés avec cette technique qu'il a lui-même inventée, qui est celle l'utilisation de la torche pour éclairer certains éléments du vêtement ou certaines parties du visage. Donc il vient donner en fait au corps, aux contours, au dessin, à la ligne, en fait, une importance très grande et qui aussi se traduit, et c'est ce qui est très très beau dans cette exposition et dans la traversée que l'on peut en faire, qui se traduit par ces expérimentations particulières qu'il fait et qui on voit qu'il est constamment en train de chercher à travailler une matérialité de l'image, matérialité qui vient précisément dire quelque chose du temps et de l'espace. Ce qui est extrêmement touchant aussi, c'est cet usage du Polaroid, on y reviendra, parce que c'est vraiment très manifeste chez lui. C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il est né en même temps que le Polaroid.
En 1947.
Il y voit un signe. Et cet usage du Polaroid, dont il fait aussi... on voit la manière dont tout d'un coup il y a une dimension un peu crépusculaire liée à la fin de l'usage du Polaroid qu'on voit dans cette très très belle série liée aux instruments de la photographie. Et ça dit quelque chose en fait de l'ensemble de son œuvre. Cette manière tout d'un coup qu'il a de prendre en photo la chambre photographique, la couverture de fond de ses modèles, l'objectif, la lampe, etc. Et ça c'est vraiment, ce sont des photos qui sont absolument magnifiques.
Yasmine aussi.
Écoutez, moi d'abord j'ai été très surprise que ça soit, c'est présenté comme la première rétrospective de Paolo Roversi en France, ce qui m'a surpris parce que pour moi Paolo Roversi c'est l'égal, c'est l'un des plus grands photographes de mode du XXe siècle et du XXIe siècle. Pour moi c'est à l'égal d'un Irving Penn, d'un Avedon ou d'un William Klein, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve son style. N'oublions pas, on parle toujours de la photo de mode presque avec mépris par rapport au reste de ce qui se fait. Or la photo de mode, c'est quand même du fait de ses contraintes, donc c'est assimilé à de la publicité et c'est le lieu de l'innovation aussi en photographie parce que il faut justement parce qu'il faut choper tout de suite le regard, attraper le regard, et donc ça vous pousse à faire, à inventer et à trouver quelque chose de nouveau, et c'est ce que fait à chaque fois Paolo Roversi. Alors c'est marrant parce qu'à vous entendre, moi j'ai pas du tout ressenti la même chose que vous. Non, pas du tout. Pour moi, Paolo Roversi est d'abord et avant tout un immense portraitiste, mais vraiment un immense portraitiste, un portraitiste du vêtement. Il est là, d'abord et avant tout au service d'un vêtement. Et moi qui ai grandi dans les chiffons, je vais pas vous raconter ma vie.
Mais, si ça m'intéresse.
C'est-à-dire
quel chiffon?
J'ai une grand-mère qui avait un magasin de vêtements, voilà. Et qui les fabriquait, qui les faisait faire elle-même. Et en fait, tout son travail, pour moi, c'est pas l'allure d'un mannequin ou la beauté d'un mannequin qui va porter le vêtement, c'est ce qui va vraiment mettre en lumière ce sur quoi il va travailler avec ses Polaroids, c'est sur le génie du créateur, en fait, du couturier. Le travail sur la matière, comment tout ça va être sublimé par l'éclairage, la matière elle-même, le travail qu'a fait le couturier, ce qui m'a mis en rage parce que il y a aucun cartel pour vous dire qui a fait le vêtement. Or, le vêtement compte énormément dans ces images-là. Il y a une robe, c'est une épine dorsale. Sur fond noir, vous voyez l'éclairage, on voit, c'est vraiment l'épine dorsale d'un poisson, exactement.
Alors, Nicolas est en train de vous le montrer en studio.
Je suis tombée dessus par hasard.
Voilà, je ne l'ai pas mis sur moi tout à coup.
Je suis désolée pour les auditeurs qui peuvent pas nous voir, mais c'est vraiment ce travail-là. Et vous voyez le génie. Alors, je me demande si c'est pas dû à Laïa, mais tout d'un coup, vous voyez le génie du couturier et en même temps le génie du photographe qui s'efface pour montrer la beauté de cette robe, mais en trouvant le style adéquat. Et c'est ça qui est formidable avec lui, c'est toujours trouver le style adéquat pour montrer ça. Quand il fait une photo de sa chambre, parce qu'il travaille à la chambre comme on le faisait au 19e, ce qui nécessite un très long temps de pause. Pour moi, c'est un portrait de sa chambre. Sa chambre, elle devient pratiquement humaine. C'est vraiment, c'est un portraitiste du vêtement.
Mais c'est intéressant.
C'est comme ça que je l'ai vu.
C'est intéressant que vous disiez ça, Yasmine, aussi, parce qu'effectivement, le choix de cette exposition, c'est de ne pas indiquer la date, le créateur, le mannequin, parce qu'ils veulent que le regardeur, le spectateur, soit focalisé sur la photo elle-même. Et au fur et à mesure des salles, force est quand même de reconnaître, Yasmine, aussi, que le vêtement, on n'y prête presque plus attention. Il y a beaucoup de portraits, il y a des nus, il y a des visages.
Alors ça doit être mon tropisme, parce que moi j'y prêtais beaucoup d'attention et je trouve que c'est ce qui met en valeur.
Bah, la salle des nus par exemple, la série nous dit.
Mais alors là, dans la salle des nus, et quand vous êtes dans la salle des nus, ensuite c'est le portrait d'un milieu qui fait, non pas du milieu de la mode comme ça en général, mais d'individus de la mode et de mannequins qu'il va saisir dans des moments d'abandon, et tout d'un coup, il n'y a plus du tout d'artifice. Il n'y a plus du tout le vêtement, il n'y a plus du tout la pose et la représentation que nécessite la mode. Mais ces gens-là qui font la mode, sortis du brouhaha, sortis du bruit et du buzz et de tout ce que vous voulez, qui sont ces gens-là? Vous avez un portrait de John Galliano, perdu dans ses pensées, perdu. Tel qu'il devait l'être dans ce milieu, jusqu'à la folie finale. Et tout d'un coup, il saisit un moment d'abandon. Et je pense que c'est peut-être le portrait le plus vrai qu'on ait vu de John Galliano. Vous avez aussi Kate Moss. Est-ce que vous l'avez reconnu, Kate Moss? Vous l'avez pas reconnu? Vous l'avez pas reconnu?
Parce que si, j'avais reconnu, mais je vais pas vous contredire. Je me fais attaquer tout de suite.
Moi, j'ai mis du temps a réalisé que c'était elle. Mmh. Et en fait...
Mais c'est là où c'est intéressant de ne pas avoir les noms,
dans
en
les
fait.
Sens. Mmh. Là, oui, mais le vêtement, pardon. Mmh. C'est un travail... Il le dit lui-même, hein, il compose. Il y a un moment où il dit... On lui donne une partition, il compose à partir de ça. Mais la partition, c'est le vêtement. C'est le travail sur la matière. C'est comment vous réalisez la première photo quand vous arrivez. C'est une robe travaillée, c'est du tissu... rouge, enfin, rouge, et c'est travaillé en macaron, ce vêtement-là. Quand vous voyez, il y a des robes à corbeille. Le travail sur le tulle, tout va être fait pour soit par le flou, soit par le travail sur la lumière de manière à rendre le relief et à rendre la matière. Et ça, c'est fabuleux. Mais ça, c'est vraiment un travail pour moi qui est au service du vêtement. Et c'est pour ça que j'aurais voulu savoir, mais qui... Parce que c'est comme s'il travaillait avec c'est comme s'il travaillait avec le créateur. À partir du créateur.
Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a deux dates qui sont mises en avant dans cette exposition. C'est 1985, le moment où Roversi réalise le catalogue de la collection hiver de Yohji Yamamoto avec fond blanc et quelques lumières colorées. Et 1997, la collection printemps-été de Comme des garçons avec la lampe torche. Il se focalise sur des parties, il en fait disparaître d'eau. Donc on voit bien que c'est lié à des créateurs. Mais j'ai pas eu effectivement ce sentiment-là du portrait du vêtement, Sally Bonne.
Oui, moi aussi, il me semble non pas que le vêtement disparaisse, évidemment, puisque c'est quand même, il fait une campagne pour un créateur. Alors il faut le dire, il n'y a pas de cartel, certes, mais il y a quand même
un livret
qui permet d'avoir les noms des
je vous donnerai le mien
les noms des mannequins, les noms des créateurs, les dates, tout est indiqué. Oui. Donc en fait on a quand même les informations, et notamment d'ailleurs c'est dit à quel point c'est important pour lui, puisque chaque photographie, notamment de ses portraits, parce que c'est vrai que c'est un grand portraitiste qui donne le prénom de chacune en l'occurrence des modèles. Cependant, moi j'ai quand même cette impression que le vêtement, évidemment qu'il est il est premier au sens où c'est ce qui est photographié sur le modèle, mais il disparaît d'une certaine manière au profit d'un travail sur la matérialité de l'image. La photographie dont vous avez parlé, Yasmine, justement, ce qui m'est apparu, moi, c'est la disparition. Justement, il joue sur la robe est noire,
sur l'extérieur
est noir, voilà, l'épine dorsale, l'extérieur est noir et l'intérieur de la robe est blanc, et en fait l'extérieur de la robe disparaît dans le fond complètement. Oui. Donc en fait on a quelque chose qui est dans de la silhouette, et de la même manière que pour Yohji Yamamoto, qui sont les premières, enfin plutôt la deuxième salle, ces images extrêmement contrastées, très très travaillées justement sur la lumière, ou avec qui va fabriquer des ombres colorées, notamment des rouges sur en fait une veste, une espèce de veste en queue de pie, enfin qui a l'apparence d'une veste en queue de pie. D'ailleurs l'image est absolument splendide, parce qu'on voit ce modèle longiligne qui est appuyé sur une canne avec cette espèce de vêtement comme ça. Mais ce qui reste, c'est cet effet de contraste et d'opposition en fait entre les ombres colorées et très noires, qui font disparaître le vêtement au profit d'une silhouette et de ce travail sur la lumière.
Yasmine, si vous voulez réagir.
Mais oui, parce que ça doit être vraiment mon tropisme. Mais moi, je ne vois, ce que je vois, c'est qu'il sublime le vêtement. C'est-à-dire que cette idée de l'épine, cette photo.
On va y revenir. En fait, c'est le débat uniquement sur une photo, en fait.
C'est le génie du couturier. Je ne sais pas qui a fait ce vêtement, puisque je n'ai pas vu qu'il y avait un livret à l'arrivée. Et c'est le génie d'avoir fait ça, d'avoir fait un vêtement comme ça en épine dorsale. Et il y a tout un travail.
C'est Alaïa,
je m'en doutais. Et c'est vraiment d'avoir, de trouver par des jeux de couleurs, par le travail sur la couleur est quand même
exceptionnel. Mais en fait, ce que vous dites se rejoint assez, c'est-à-dire il y a quand même cette idée toujours de l'expérimentation de Roversi, de la matérialité. Vous vouliez parler peut-être
pour moi, c'est au service du vêtement.
Du Polaroid, Sally Bonne.
Oui, le Polaroid, parce que le temps presse. C'est vraiment son. Il y a cette particularité. Il travaille vraiment comme un artisan. Et cette série dont j'ai parlé autour du studio vient rendre compte en fait de cette importance-là du travail, du temps. Yasmine, vous l'avez dit,
le temps long de la pause,
le temps long de la chambre, et ce temps long-là qui est vraiment au profit d'une intériorité en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur la question de la chambre. Il y a cette très belle phrase qui est d'ailleurs en ouverture d'exposition, qui me semble en fait illustrer très bien l'ensemble du travail, notamment d'expérimentation quasi artisanale de Roversy. Il dit « Ma première Lanterna Magica, c'est ma chambre à coucher à Ravenne, où les lumières qui entraient par les persiennes formaient sur le plafond et, les murs des figures fantomatiques et mystérieuses. Ma vraie Lanterna Magica, depuis, c'est mon studio. » Donc il y a cette intériorité où il va faire entrer la lumière, la couleur et de l'espace à l'intérieur d'un espace réduit. Et c'est ça qui apparaît.
Yasmine Youssien, un dernier mot.
Ce qui apparaît aussi, c'est un dialogue permanent avec les grands photographes qu'il admire, que ça soit avec Man Ray, que ça soit avec les surréalistes. Man Ray, où tout d'un coup, on a l'impression une photo qui est une solarisation. Et là encore, c'est ce génie de toujours trouver ce qui va faire pour ce qui va le mieux rendre hommage au vêtement, enfin le mieux mettre en valeur le vêtement. Il y a un clin d'œil à Bourdin avec une paire de chaussures qui est laissée là au milieu devant un miroir. Il y a des clins d'œil, tout le travail sur la couleur, c'est des clins d'œil aussi à Erwin Blumenfeld, des superpositions, des personnages androgynes où on pense à Claude Quin. Il y a énormément de choses dans cette exposition. Enfin, il faut aller la voir. Chacun verra ce qu'il veut.
Le flou avec Julia Margaret Cameron aussi.
Julia Margaret Cameron, ouais. Chacun y verra ce qu'il veut. Moi, j'y ai vu d'abord.
Du vêtement.
Dans une photo, je recherche toujours un peu la même chose. Je recherche de dévoiler les mystères de la beauté, qui pour moi la beauté c'est un mystère, et je suis en quête de cette beauté tout le temps.
Paolo Roversi, c'est jusqu'au 14 juillet au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, et le catalogue du même nom est également disponible.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous parlons à présent d'Andrés Serrano, Portrait de l'Amérique, c'est jusqu'au 20 octobre prochain au musée Mayol.
J'ai étudié le dessin, la peinture et la sculpture quand j'ai étudié au Beaux-Arts de Brooklyn. Après deux années d'école, après deux années de peinture, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment peindre ou sculpter. Mais j'étais avec une femme qui avait un appareil photo et j'ai commencé à utiliser son appareil photo. Je me suis toujours considéré comme un artiste utilisant, comme moyen d'expression, un appareil photo.
Voilà, c'est dit. Andrés Serrano n'est pas un photographe, mais un artiste utilisant un appareil photo, allant aussi, comme on le découvre dans cette exposition, vers l'installation et la vidéo. Chez lui, ce n'est pas le médium l'important, mais ce qu'il veut montrer, des portraits de l'Amérique fracturés entre ses principes et la réalité, entre les démocrates et les républicains, avec pour figure de proue Donald Trump. Un travail d'anthropologie, presque, qui documente les individus américains, les sans-abri, les amérindiens, les suprémacistes blancs, les morts, quelques stars des robots et encore, toujours, Donald Trump. Son idée, tous les montrer sans les juger, sans prendre parti, et que le spectateur se fasse son idée ou soit choqué. Tout a d'ailleurs commencé par une polémique pour Serrano avec son Christ dans l'urine. On était en 1987, mais aujourd'hui, en 2024 et à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis, qu'avez-vous pensé de cette exposition, Yasmine Youssi?
Écoutez, Serrano, c'est vraiment, alors là encore, un très très grand portraitiste de l'Amérique. Il annonce la couleur d'emblée dans cette exposition avec un drapeau en lambeaux qui date de 1920. Et comme pour nous dire que c'est d'un pays un peu disloqué, qui tombe en miettes, avec ça nous parlait de sa grandeur passée, mais qui n'est plus. Et il nous plonge dans cette Amérique-là tout de suite. Les salles sont, la plupart des murs sont souvent peints en noir, dans une lumière tamisée. Là encore, ça va parfaitement avec le propos, c'est-à-dire les recoins les plus sombres de l'Amérique dans lesquels il nous entraîne, dans un parcours extrêmement cohérent, très très bien fléché, une incursion dans les collections permanentes pour un dialogue avec Mayol qui réussit plus ou moins, parce que les photos de statues qu'il fait ne sont pas les meilleures, et là, ne sont pas ses meilleures. Serrano, il est formidable quand il parle de l'Amérique, et je vais y revenir, mais ça dérape quand il se fait de l'art sacré, où là on tombe dans une espèce de kitschounet, un truc assez kitschounet, plutôt raté.
C'est pas un compliment kitschounet.
Non, vraiment, c'est pas un compliment du tout. Là où il est, il y a un moment en fait où Andrés Serrano devient l'Auguste Sander de l'Amérique post-11 septembre. C'est-à-dire que Auguste Sander, sous la République de Weimar, va photographier tous les métiers, dans les années 20-30, jusqu'à l'avènement du nazisme, il va photographier un individu, un métier. Et comme ça, il brosse le tableau de cette République de Weimar. Et Serrano, au lendemain du 11 septembre, il comprend que son pays est considéré comme l'ennemi, et donc il veut aller voir qui sont ces gens qu'on considère comme l'ennemi, les portraiturer et faire leurs portraits. Et il y a tout un ensemble comme ça qui est absolument passionnant, souvent dans le même style. C'est à la fois des individus et à la fois des symboles qui sont photographiés de trois quarts ou de profil, jamais vraiment de face, sur un fond uni, plutôt aux couleurs assez douces. Donc il va y avoir la comédienne de la côte est sophistiquée, ça c'est Chloé Sevigny, des rappeurs.
Oui, il y a Snoop Dogg.
Il y a Snoop Dogg, il y a Baby Miss America ultra sexualisée de ces années-là, un rabbin. C'est vraiment l'Amérique dans toute sa diversité, une employée de banque dont on comprend qu'elle est fraîchement arrivée d'Afrique. Enfin, c'est vraiment en même temps quelqu'un. Cette Amérique qui reste le pays où tout est possible, le pays des possibles. Mais en même temps, il photographie une autre Amérique, c'est-à-dire celle des laissés pour compte, celle des sans-abri, et il en fait des princes, vraiment des prince céleste, des portraits qui sont d'une beauté où il n'y a que, en fait, les détails sur les vêtements, là encore, qui vont vous indiquer que ce sont des sans-abri, la manière dont il les photographie. Il va aussi mettre en avant le racisme. Il y a une série qui est fabuleuse, c'est-à-dire qu'il est allé chiner des objets dans cette esthétique.
Ça s'appelle Infamous.
Voilà, cette esthétique que Gabon Bananier, entre guillemets, donc c'est-à-dire tous les clichés, toute la caricature.
Parce que c'est pas que des portraits, des photos, non. C'est aussi des artefacts. Et il y a donc ces objets qu'il collectionne.
Exactement.
Il le fait aussi pour Trump, tous les objets qui se rapportent
mais
à Trump.
Mais ces objets-là disent le racisme. Ouais. Et il vous montre ça. Il vous montre des portraits aussi de personnes qui appartiennent au Ku Klux Klan, dont il ne photographie vraiment une espèce de... Comment on appelle cette espèce de toque là qui se met sur...
Leur capuche.
Voilà,
oui,
leur capuche. Vraiment. On ne voit qu'un œil, on les voit de dos. Ils sont terrifiants. Et juste à côté, plus glaçant encore, la photo... d'une photo d'un lynchage des années 20, d'un homme nu lynché qui vous ramène à la réalité. Et y a quand même une très grande force, je trouve, une très grande cohérence dans ce travail et dans la manière dont il est montré, là.
Saliban.
Alors,
ouh, il y a eu un dixième, millième de seconde de doute.
Plus que de doute. Je trouve que ce voyage dans l'œuvre américaine de Serrano a un goût quand même très étrange. On l'a dit, et on connaît d'ailleurs ces images. Hein. Elles ont quand même pas mal circulé. Ouais. Corps, mort, sexe, religion,
le
race,
Trump est
racisme,
très
obscénité, narcissisme. Oui. Tout est là pour du grand spectacle. Un spectacle que l'on connaît. Hein. Ces images, je l'ai dit, ont circulé. Elles ont fait polémique, ce qui a d'ailleurs favorisé en fait la reconnaissance de Serrano. Et ce spectacle-là, ce même spectacle qui fait société, hein, si on remonte à Guy Debord, mais qui, contrairement à Guy Debord et au projet situationniste, me semble en fait ne pas avoir pour ambition aucunement de subvertir l'ordre dominant, mais de le regarder simplement. Et de le regarder simplement parce que ces images-là sont d'une très grande frontalité. D'abord, elles sont en très grand format, elles sont quasiment toutes sur le même format. Évidemment, il y a quand même des petites nuances, mais il y a quand même une présence d'un format. Toutes les objets, les choses, les portraits sont dans le même regard, dans la même distance et dans cette distanciation qui met tout en fait dans un rapport d'égalité que je trouve extrêmement problématique.
C'est-à-dire
qu'il y a une neutralité. Oui, mais en fait, quand il dit « je prends pas parti », moi, je trouve ça, en fait, difficilement acceptable. C'est-à-dire qu'il montre de la même manière, en fait, cette photo de lynchage que je trouve assez terrible, parce qu'elle est mise sur le même plan que Trump, ou que quelqu'un du Ku Klux Klan, ou que c'est sans-abri. Et en fait, je trouve que cette mise en fait au même niveau de l'ensemble de ces images pose un très grand problème, et notamment pose un très grand problème de quelque chose qui serait de l'ordre d'une esthétisation en fait de l'image, et on ne sait plus quel serait le rôle de ces images. Est-ce que c'est la transgression, est-ce que c'est du scandale, est-ce que c'est de la dénonciation, est-ce que c'est de la mise en garde, est-ce que c'est du voyeurisme, ou au fond rien, parce qu'il le dit lui-même, au fond vous pensez ce que vous voulez de mes images.
Oui.
Et ça, pour moi, ça pose pas un problème morale, parce qu'il ne s'agit pas de questions de morale, d'ailleurs, dont il s'est servi quand même pour que son travail soit prenne cette importance-là. Hein. Il a joué sur la dimension morale de son travail.
Oui, il y a un côté opportuniste.
Mais je pense quand même que cette esthétisation, cette réification, c'est-à-dire cette manière d'objectiver les choses et de les mettre sur le même niveau et sur le même plan de l'image et sur la même frontalité, enfin, pour moi, pose un gros problème.
Yasmine Niou, si vous voulez réagir, parce que vous disiez, il prend parti, lui-même revendique qu'il est neutre. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il dit qu'il a un regard critique et qu'en même temps, il est neutre.
Il n'est pas neutre. Je veux dire, cette photo de lynchage, elle vient ponctuer toute une série sur le racisme. Et tout d'un coup, ça veut dire, pour moi, je la ressens vraiment comme ça, c'est que la réalité, c'est ça. La réalité, finalement, tout ça a abouti à ça. À ce lynchage. Et ça, pour moi, c'est très, très clair. Maintenant, pour moi, c'est vraiment l'Amérique, c'est-à-dire où tout va être spectaculaire, où on va mettre à peu près sur le même plan un Donald Trump, où c'est l'Amérique, c'est ce côté comme ça, exacerbé. Voilà. Alors après, il y a ces photos religieuses, lui qui se dit très chrétien, très, il adore le pape, tout ça, quand il fait ses photos religieuses, alors là, je sais même pas.
Il
est béni
par le pape, il en est très content.
Oui, le pape lui a même fait un pouce levé. Oui. Vous vouliez répondre
Oui, je voulais répondre sur l'image du lynchage, parce que pour moi, elle pose problème parce que c'est une carte postale et qu'en fait, l'agrandissement de cette carte postale ne nous donne rien d'autre que simplement l'agrandissement au même titre que toutes les autres images. Non. Et je pense que c'est très difficile de traiter de cette manière-là une image qui est en fait, dans son agrandissement, elle perd ce qu'elle a été, en fait, de circulation de l'image.
Au contraire, cette image-là, ça vraiment, c'est au final... Voilà ce que c'est que la réalité, voilà ce à quoi on aboutit derrière tous ces portraits.
On va s'arrêter là-dessus. Vous pouvez aller vous faire une idée vous-même, auditeur, auditrice, en allant voir l'exposition Andrés Serrano, Portrait de l'Amérique. C'est jusqu'au 20 octobre au musée Mayol et le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Tempora. Je précise aussi que Paolo Roversi et Andrés Serrano étaient tous les deux reçus par Arnaud Laporte dans l'émission Affaires culturelles. Leurs entretiens sont à découvrir sur France Culture. Merci à toutes les deux, Sally Bonne, Yasmine Youssi. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.